Quelles sont les caractéristiques contemporaines et les facteurs de la mobilité sociale? Comment définir et mesurer la mobilité sociale? Les formes et les enjeux de la mobilité. Le droit à la mobilité est l'un des principes fondamentaux des démocraties libérales énoncé par la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. La mobilité géographique est d'ailleurs un droit générique dans la mesure où elle conditionne l'exercice d'autres droits, comme la santé ou le logement. Mais la mobilité n'implique pas toujours de déplacement physique. Elle peut consister à se déplacer au sein de la société, pour les individus comme pour les groupes sociaux. On parle, dans ce dernier cas, de mobilité collective. Cette mobilité sociale peut être une mobilité professionnelle ou intragénérationnelle au cours de la vie active ou une mobilité intergénérationnelle fondamentale dans une société démocratique qui garantit le libre accès à tous les métiers ou groupes sociaux. Si les professions les plus convoitées se transmettent des parents aux enfants sans s'ouvrir aux membres d'autres groupes sociaux, alors la forme démocratique de la société est remise en cause. Principes, intérêts et limites des tables de mobilité sociale. La mesure de la mobilité sociale s'effectue à partir de tables de mobilité qui croise l'origine sociale, la profession des parents, avec la destinée des enfants, la profession des enfants. La table de recrutement ou d'origine présente la profession et catégorie socio-professionnelle, PCS, à laquelle appartenaient les parents en fonction du métier des enfants. À l'inverse, la table de destinée montre à quel PCS appartiennent les enfants en fonction de la PCS de leurs parents. Les tables de mobilité mettent en évidence une mobilité observée, ou absolue ou totale, mais également les situations de reproduction sociale ou immobilité sociale qui prennent la forme d'hérédité sociale ou d'autorecrutement social lorsque les PCS des parents et des enfants sont identiques. Du fait de leur construction, les tables de mobilité comportent plusieurs limites. D'une part, elles reposent sur la nomenclature des PCS qui n'est pas clairement hiérarchisée. D'autre part, le découpage en 6 PCS peut masquer une partie de la mobilité sociale existant au sein des catégories. Il s'agit, par exemple, des passages de la catégorie employé non qualifié à la catégorie employé qualifié. À l'inverse, le découpage en 6 PCS peut surestimer la mobilité entre des catégories proches, comme celle des employés et des ouvriers. Enfin, elles ne peuvent rendre compte de la mobilité subjective ressentie par les personnes lorsque leurs conditions de travail s'améliorent ou se détériorent, par exemple. La composante structurelle de la mobilité sociale. Les changements de position sociale entre les générations peuvent résulter des modifications entre les emplois qui existaient pour les parents et les emplois disponibles pour les enfants. Il s'agit dans ce cas d'une mobilité structurelle qui est une composante de la mobilité observée. La mobilité structurelle se mesure en calculant la différence entre le nombre de parents dans une PCS et le nombre d'enfants dans cette même PCS. La mobilité structurelle n'est donc pas liée à la volonté des individus. elle résulte des changements dans la structure de l'économie. Théorisé par Joseph Alois Schumpeter, le processus de destruction créatrice inhérent au capitalisme est la principale explication de la mobilité structurelle. En détruisant des emplois dans certains secteurs d'activité et en en créant dans d'autres, le progrès technique implique des changements de statut professionnel entre les parents et les enfants. Selon la théorie du déversement d'Alfred Sauvy, les emplois disparaissent dans les secteurs primaires et secondaires à fort progrès technique et faible progression de la demande et apparaissent dans le secteur tertiaire à faible progrès technique et forte progression de la demande. La fluidité sociale, une mesure relative de la mobilité sociale. Une autre manière de mesurer la mobilité sociale consiste à évaluer la fluidité sociale ou mobilité relative en comparant les probabilités d'atteindre un même groupe social en fonction d'origines sociales différentes. La fluidité sociale, mesurée par les odds ratio ou rapport des chances relatives, est donc indépendante des évolutions de la structure sociale entre la génération des parents et celle des enfants. La mobilité relative s'oppose à la mobilité observée, qui se compose de la mobilité structurelle et de la mobilité nette. Face à la difficulté d'interprétation de la mobilité nette, les spécialistes des tables de mobilité lui ont substitué une analyse en termes de fluidité sociale. L'analyse de la fluidité sociale montre qu'une société plus mobile n'est pas nécessairement une société plus fluide. En effet, la mobilité observée peut s'accroître entre les catégories ouvriers et employés, par exemple, sans que la probabilité d'accéder aux catégories valorisées, comme celle des cadres, augmente. Comment expliquer les caractéristiques de la mobilité sociale contemporaine? Les caractéristiques de la mobilité masculine. L'enquête Formation, qualification et professionnelle, FQP, réalisée par l'INSEE en 2014-2015, montre que les hommes occupent majoritairement des PCS différentes de celles de leurs pairs. La mobilité sociale masculine se caractérise par une mobilité structurelle minoritaire et en diminution depuis les années 1970. Les trajectoires des individus sont le plus souvent verticales et courtes et montrent une mobilité ascendante entre des PCS proches. Si le déclassement masculin ne concerne que 16% des hommes, il a été multiplié par 4 entre 1977 et 2014-2015. Sur cette période, la mobilité sociale descendante a augmenté pour les enfants de cadres et de professions intermédiaires, tandis qu'elle a diminué pour les employés et ouvriers. Actuellement, le sentiment de déclassement touche toutes les catégories sociales. En 2014-2015, 25% des hommes âgés de 30 à 49 ans se sentent déclassés par rapport à leurs pairs. Ce sentiment s'explique en partie par la précarisation des emplois et la dégradation des conditions de travail ressenties par les salariés. Les caractéristiques de la mobilité féminine. L'analyse de la mobilité féminine est plus récente que celle de la mobilité masculine. En effet, les taux d'activité féminins ont longtemps été inférieurs à ceux des hommes, de même que la structure des emplois féminins divergeait de celle des emplois masculins. l'enquête FQP de 2014-2015 montre une mobilité féminine majoritaire et supérieure à celle des hommes. Au sein de la mobilité observée, la mobilité structurelle est forte. Les trajectoires de mobilité sont principalement ascendantes entre les mères et les filles, mais le déclassement est plus élevé par rapport aux pères. Par rapport aux hommes, les femmes éprouvent, en moyenne, un sentiment de déclassement plus élevé, notamment vis-à-vis de leurs pères. Ce sentiment de déclassement est moins élevé par rapport aux mères. Cette caractéristique de la mobilité féminine s'explique par les inégalités de genre sur le marché du travail, les pères occupant plus souvent des emplois qualifiés que les mères. Les explications de la mobilité sociale. Outre les évolutions économiques qui expliquent la mobilité sociale structurelle, deux institutions déterminent fortement la mobilité observée. Les ressources et configurations familiales constituent la principale explication des trajectoires improbables et probables de mobilité sociale. En effet, le nombre de frères et sœurs est fortement corrélé au changement de position sociale. De manière générale, plus la fratrie est nombreuse, plus l'immobilité sociale augmente. Cependant, la détention de capitaux économiques et culturels au sein de la famille peut favoriser la mobilité sociale en facilitant la réussite scolaire. L'école et les niveaux de formation constituent l'autre institution déterminant fortement la mobilité sociale. Appliquée à l'école, la courbe de Gatsby montre que plus un système scolaire est inégalitaire, plus la reproduction sociale est importante. De plus, le paradoxe d'Anderson montre que l'obtention d'un niveau de diplôme supérieur à celui des parents ne se traduit pas toujours par une meilleure position sociale.